soir, 18 février 2006, 18 février 2013. Cela fait 7 ans que la RDC dispose de sa constitution de la Troisième République. Cette loi suprême avait été promulguée après référendum le 18 février 2006. Elle fixe la forme de l'État, le régime politique, les rapports entre les institutions, mais aussi le mode de scrutin. Quel bilan dressé de l'application de la Constitution 7 ans après sa promulgation? Nous recevons comme invité honorable Emery Okundji, député national de l'opposition et cadre du parti politique FONUS. Honorable Okundji, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Il a contribué à l'élaboration de la constitution du 18 février 2006. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Erung et bonsoir aux auditeurs.
Professeur Ambroise Kamukuni, député national de la majorité présidentielle, il est professeur de droit constitutionnel congolais à l'Université de Kinshasa. Professeur Kamukuni, bonsoir.
Bonsoir Guy. Et bonsoir aux auditeurs de Radio Capi.
Voilà, vous avez tout compris qu'il s'agit d'Alain Rung au micro. Guy Maté est à la réalisation, Paul Badianyama à la mise en onde. Bienvenue à tous dans votre émission et surtout, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
18 février 2006, 18 février 2013, cela fait 7 ans jour pour jour que la RDC dispose de sa constitution de la Troisième République. Cette loi suprême avait été promulguée après référendum le 18 février 2006. Elle fixe la forme de l'État, le régime politique, les rapports entre les institutions, mais aussi le mode de scrutin. Dressant un bilan technique de 7 ans de son application, le professeur Paul Gaspard Ngonankoy affirme que certaines dispositions de ce document ont été respectées. Cependant, ajoute ce constitutionnel, plusieurs choses restent à réaliser, il a dit à Mimi Ngumba Mulongo.
Il y a un certain nombre de réformes qui ont été annoncées par la Constitution qui n'ont pas été opérées. Je pense ici par exemple aux réformes dans le domaine de la décentralisation. Vous vous souvenez que la Constitution avait prévu qu'en ayant les 36 mois qui suivaient l'installation des institutions politiques, on devait installer les 26 provinces. On a profité de la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 pour repousser l'échéance. Deuxièmement, il y a des institutions dans le monde judiciaire qui auraient pu également être installées, entre autres la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, la Cour de cassation. Tout cela n'a pas été installé. Il se souviendra que la loi sur la Cour constitutionnelle, par exemple, a déjà été adoptée en termes identiques par les deux chambres. Jusqu'à ce jour, on est étonné qu'elle n'ait pas encore été promulguée. Il y a un certain nombre de réformes qui ont été annoncées, mais qui n'ont pas encore été complètement réalisées. On peut dire que c'est un peu décevant, même si par ailleurs il faut reconnaître que d'autres dispositions de la Constitution ont été bel et bien appliquées. Je pense ici par exemple aux dispositions qui organisent les sessions parlementaires.
Professeur Paul Gaspard Ngondankoy au micro de Mimi Ngumba Mulongo. Avant d'entrer dans le vif du débat, écoutons à présent certains acteurs politiques dresser leur bilan de l'application de la Constitution 7 ans après sa promulgation. Ils sont au téléphone de Kelly Nkouté.
Madame Eve Bazaïba, députée nationale, membre du MLC, l'évaluation est totalement négative. Parce que avant même la fin d'une mandature, la Constitution a été touchée dans le fond. Chose qu'on ne pouvait pas faire. Aujourd'hui, la conséquence, nous avons une crise de la légitimité du pouvoir. Et le gestionnaire de la chose publique ne la respecte pas.
Christophe Lutundula Pala, député à l'Assemblée nationale, c'est un acquis que cette constitution ait vécu pendant 7 ans. Elle a permis à une législature de fonctionner, la législature 2006-2011. Elle a permis de mettre en place des institutions issues des élections et d'organiser une alternance après 5 ans de la législature passée. Nous avons institué un système d'autonomie des provinces. Nous avons amorcé le premier pas. De ce point de vue, il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire.
Jean-Baptiste Bomanza, conseiller politique et du président de l'Union pour la Nation, le sénateur Jean-Pierre Bemba. La Constitution n'a pas été appliquée comme il se doit. dès la première législature. On a procédé par la révision constitutionnelle, on a violé certaines dispositions pertinentes. En révisant la constitution, on a confié au président de la République et au gouvernement les prérogatives qu'il ne devait pas avoir. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, le président de la République peut suspendre un gouverneur, peut même dissoudre l'Assemblée provinciale.
Honorable Ezeki Katumwa, député national, dans son ensemble, l'évaluation que moi je fais est positive parce que cette constitution que nous avons adoptée en 2006, il y a eu des renvois aux différentes lois que nous avons adoptées durant la législature passée et même au courant de cette législature. Je pense que le bilan est positif. Il y a seulement quelques points qui restent à clarifier, entre autres le 40% qui doit être retenu au niveau des provinces. La faisabilité pose encore problème. Il y a aussi les nouvelles provinces qu'on devrait mettre en place.
Honorable Justin Bitakwira, député national, la constitution, on a touché presque à sa matrice en changeant le nombre de scrutins. C'est-à-dire au lieu de 2 pour, 1 pour. Tout ce qui se passe aujourd'hui, vous entendez parler dialogue, concertation, forum. Tout ce mal vient de la révision de cette constitution par rapport au scrutin.
Honorable Muhindo Nzangi-Butondo, je suis député national. On peut retenir que d'abord les institutions qui ont été prévues dans la constitution ont été effectivement installées. Nous avons le président de la République, nous avons le gouvernement, nous avons le parlement. Ce qui n'a pas encore été installé effectivement, c'est la cour constitutionnelle. Par contre, là où ça n'a pas été bien appliqué, c'est au niveau de la décentralisation.
Professeur Ambroise Kamukuni, je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle, vous êtes professeur de droit constitutionnel congolais à l'université de Kinshasa. Professeur, je vous prie que l'on commence par les aspects positifs dans l'application de la constitution 7 ans après sa promulgation. Quels sont ces aspects d'après vous?
Oui, cher ami, les aspects positifs, beaucoup de collègues qui viennent d'intervenir avant les ont épinglés. Le travail d'une constitution, c'est justement d'amener un régime constitutionnel choisi à fonctionner normalement. Il faut effectivement retenir que sur le bas de cette constitution... Allô?
Oui, professeur, vous êtes en ligne, on vous écoute.
Je disais que sur base... la constitution sert justement à faire fonctionner le régime. Sous base de la constitution du 18 février 2006, on peut retenir clairement que les institutions, les principales institutions, ont été mises en place à travers leurs animateurs. Le chef de l'État a été élu et aujourd'hui, le cycle des élections est revenu et on a à nouveau mis en place une deuxième législature. Au niveau du Parlement, bien que le Sénat n'ait pas encore renouvelé, il y a le Sénat qui a été mis en place et l'Assemblée nationale non seulement a été mise en place dans la première législature, il a été également dans la deuxième. Bien entendu, au niveau des aspects positifs, on peut encore épingler que, effectivement, les provinces ont essayé de fonctionner avec une certaine autonomie, bien qu'il faille effectivement faire remarquer que dans ce domaine, on n'est pas allé beaucoup plus loin que là où il fallait aller. Mais beaucoup de choses ont été faites concernant cette constitution. Mais il faut retenir, cher ami, que une constitution... un texte constitutionnel à travers le monde n'est pas exactement ce que tout le monde pense. Le texte, c'est un texte appliqué et ceux qui doivent l'appliquer ainsi que la réalité ne correspond jamais au texte tel qu'il apparaît. Et il y a effectivement plus d'aspects positifs que d'aspects négatifs. Et les aspects négatifs, si vous voulez que j'enchaîne, sont liés notamment à des dispositions qui ne sont pas appliquées. Le collègue Monaco a parlé de décentralisation qui est en retard d'être appliquée et il y a effectivement à remarquer que les juridictions créées par la constitution du 18 février 2006, notamment la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, en remplacement de la Cour constitutionnelle, ne sont pas encore mis en place. C'est un retard observé et qui est à classer effectivement dans les points négatifs. Mais en général, beaucoup de points ont été conformes. J'ai entendu des collègues intervenants en train d'insister sur la révision. La révision constitutionnelle n'est pas nécessairement un aspect négatif. La révision constitutionnelle, c'est une mise en une constitution, un texte, une loi ne peut pas être destiné à être nécessairement immuable. Les changements qui interviennent sont généralement pour adapter.
Professeur Kamkouni, je vous en prie, la qualité de votre ligne se dégrade sérieusement. La réalisation va tenter de vous rappeler pour essayer de l'améliorer. Honorable Emery Okundji, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique FONUS. Vous avez suivi les différentes interventions ainsi que le professeur Ambroise Kamkouni dans sa première intervention qui soutient qu'il y a plus d'éléments positifs que négatifs dans l'application de la Constitution 7 ans après sa promulgation. Commençons par les aspects positifs. Quels sont-ils pour vous?
Bien, je vous remercie Alain Hurung. Mais avant de commencer par les aspects positifs, j'aimerais, parce que nous avons une mission pédagogique aussi, j'aimerais rafraîchir la mémoire de tous nos compatriotes congolais avec l'article 62 de la Constitution qui stipule « Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. » Les aspects positifs, comme plusieurs de mes collègues l'ont bien souligné, eh bien, c'est l'installation des institutions politiques. Et là, le problème ne se pose pas. Toutes les institutions ont été installées à la première législature. Et donc, là, c'est un aspect positif. Mais vous savez, Alain Hurung, lorsque les aspects négatifs sont beaucoup plus nombreux que les aspects positifs, je suis tenté de dire, comme certains de mes collègues, que le bilan de 7 ans du respect de cette constitution est négatif, largement négatif, dans la mesure où les articles mêmes de la constitution ne sont pas respectés. Certains de mes collègues ont souligné la révision cavalière de la Constitution dans son article, je crois, 73, si ma mémoire ne me trahit pas, révisant 71, je m'excuse, Alain Hurung, où on a changé l'élection du président de la République de 2 tours à 1 seul tour. Cette disposition constitutionnelle, comme l'a dit mes prédécesseurs, est à la base de la crise que nous connaissons aujourd'hui. Vous remarquerez aussi l'article 2 de la Constitution, Alain Hurung, qui stipule que la République est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique qui n'est pas jusqu'aujourd'hui d'application. Vous pouvez aller beaucoup plus loin, l'article 10 de la Constitution, en ce qui concerne la nationalité congolaise qui est une et exclusive. Vous avez dans les institutions des gens qui ont 2-3 nationalités, ça pose problème. L'article 14 qui nous parle de la parité hommes et femmes, Alain Hurung qui donne la leçon doit l'exemple. Nous avons un gouvernement formé de plus de 40 ministres. Et lorsque vous regardez, vous n'avez même pas 6 ministres. Et donc, cette disposition pose encore problème dans son application. Vous avez plusieurs articles. L'article 26 de la Constitution, en ce qui concerne la liberté de manifestation qui est garantie. Vous remarquerez que la Constitution vous dit d'informer l'autorité pour qu'ils prennent des dispositions d'encadrer la manifestation, la marche pacifique. Vous constaterez amèrement avec moi que le, à commencer par la ville-province de Kinshasa, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa ne respecte pas cette disposition. Il l'a transformée à un octroi d'autorisation. Et donc, les exemples sont légion.
Alors, qu'est-ce qui justifierait, honorable Mary Okundji, d'après vous, que l'application de la Constitution souffre de beaucoup de problèmes? Qu'est-ce qui justifierait cela, d'après vous?
Ah ben, d'après moi, Alain Rung, on peut avoir des bonnes lois, mais si nous n'avons pas des hommes capables de faire appliquer ces lois et de les respecter, c'est de la peine perdue. D'après moi, aujourd'hui, le problème est un problème d'hommes, les hommes capables de respecter et de faire respecter la loi fondamentale. Puisque vous me posez cette question, je n'aimerais pas, étant donné que nous faisons le bilan de la Constitution, je n'aimerais pas m'écarter de la Constitution. L'article 69 de la Constitution, deuxième alinéa, demande au chef de l'État de veiller au respect de la Constitution. Et donc, si la Constitution est constamment violée, et la responsabilité première incombe au président de la République.
Professeur Ambroise Kamukuni, est-ce que vous nous suivez?
Je vous suis très bien, bien que je vous ai pris en chemin.
Voilà.
Il y a effectivement un problème de communication. On ne se suivait pas très bien, mais je vous suis très bien à présent. Oui.
Nous également, nous vous suivons bien. Il vous restait une minute pour atteindre le même temps de parole que l'honorable Okundji, qui dit, lui, que le bilan, il y a tellement d'aspects négatifs que tous ces aspects négatifs ont fini par noyer le peu de positif qu'il y avait dans l'application par rapport à l'application de la Constitution. Et lui, donc, pense que la cause ou le problème, c'est un problème d'homme.
Mais vous savez, l'application de la Constitution ne relève pas seulement des dirigeants politiques, des animateurs des institutions. Le respect de la Constitution, c'est le devoir qu'on met à tout le monde, que ce soit les citoyens qui n'ont pas à exercer le pouvoir directement, bien que c'est leur pouvoir justement que les animateurs exercent en leur nom, ils ont aussi des aspects à respecter dans la Constitution. Que ce soit ceux qui gèrent le pays, les animateurs, qu'on appelle souvent de la majorité, ils ont des devoirs envers la Constitution. Mais ceux qui sont dans l'opposition également, ils ont leurs devoirs au niveau du respect de la Constitution. Et il est bien vrai, je l'ai dit lorsque nous nous sommes perdus, qu'il y a des aspects qui n'ont pas trouvé application. Et en ce moment-là, la responsabilité incombe à qui? Bien entendu, au premier chef, la responsabilité incombe aux dirigeants. Et cette responsabilité qui incombe aux dirigeants incombe aussi à ceux qui sont dans l'opposition, qui observent et qui ne savent pas par quel mécanisme amener ceux qui dirigent le pays à pouvoir respecter la Constitution. Et cette même responsabilité effectivement incombe aussi aux citoyens, à tout le peuple, à qui appartient le pouvoir et dont le pouvoir que les autres exercent en tant que mandataire.
Merci.
Bien entendu, au niveau des aspects qui n'étaient pas utilisés et qui n'étaient pas encore appliqués correctement, il y a l'ensemble, le faisceau de droits qui appartiennent aux citoyens. Et là-dessus, faudrait-il attendre que des droits qui nous sont déjà confiés par la Constitution soient mis en branle par des lois, par d'autres actes. Ça, je ne pense pas. Merci. Il y a effectivement un retard, mais je disais que ce retard n'incombe pas seulement aux citoyens congolais, ce retard est à observer à travers le monde.
Merci, professeur Kamukuni. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Vous avez contribué à l'élaboration de la Constitution du 18 février 2006. Professeur, quel est votre bilan?
Merci beaucoup, monsieur, pour cette question. Mais préalablement, il faut bien préciser les choses. Il faut bien se rendre compte que la Constitution avait été écrite dans un contexte bien particulier, qui était un contexte de transition avec un président et quatre vice-présidents dans un contexte où il y avait un partage de pouvoir dans un système inclusif. Et de ce fait que cette Constitution ait est l'aboutissement du contexte politique de cette époque-là. Et donc cela étant, cette constitution qui institue ce qu'on appelle un régime équilibré entre plusieurs institutions, c'est-à-dire institutions au niveau du gouvernement, entre dualité entre président et gouvernement d'une part, d'autre part, équilibre entre d'une part la forme de l'État avec un État central fort, mais aussi avec des provinces fortes avec leurs compétences, mais au niveau aussi de la justice où on a instauré trois systèmes qui permettent de pouvoir équilibrer. En fait, cette constitution, comme je l'ai dit, et donc elle pose le cadre général de ce que doit être un État équilibré avec des institutions qui s'équilibrent et où il n'y a pas véritablement quelqu'un qui détient l'essentiel du pouvoir. Alors la mise en place d'un tel texte nécessite beaucoup de travail, nécessite beaucoup de textes qui doivent venir appuyer le texte de base. C'est ainsi que la mise en place de ces différentes institutions traîne pour la bonne et simple raison que il y a plusieurs institutions qui doivent être mises en place, mais ça ne dépend pas de la Constitution. Ça dépend du Parlement qui doit adopter des textes qui doivent régir, en fait, les dispositions qui sont dans la Constitution. Donc, de manière très claire, schématiquement, on a un texte constitutionnel qui doit être mis en œuvre, et cette mise en œuvre ne se fait pas pour toute une série de raisons, et cette mise en œuvre demande beaucoup d'énergie, demande beaucoup de volonté politique, demande aussi beaucoup de moyens, et ce qui fait que toute une série d'institutions qui sont prévues, toute une série de mécanismes de fonctionnement de la Troisième République qui sont prévus par ce texte ne sont pas encore adoptés. Mais je voudrais surtout souligner une chose qui n'est pas vraie. Quand on parle de la décentralisation, il faut bien se rendre compte que la décentralisation n'est pas le découpage territorial. La décentralisation est en œuvre. On ne peut pas dire que la décentralisation n'est pas mise en œuvre. Elle est mise en œuvre, mais seulement ce qui manque encore dans le processus de décentralisation, au fait, ce sont les élections locales qui doivent mettre en place les institutions locales, et ces institutions locales doivent fonctionner avec les textes des lois qui ont été adoptés dans le cadre de la décentralisation. Donc en termes de bilan, on peut dire que le processus est long, il est lent, il est difficile, mais il nécessite aussi beaucoup d'efforts et surtout beaucoup d'engagement politique de la part de toutes les institutions, ce qui pour l'instant n'est pas encore vraiment effectif.
Professeur, donc à comprendre votre analyse, il y aurait encore un problème de volonté politique, mais vous avez suivi l'honorable Okundji ainsi que plusieurs députés de l'opposition qui pensent que le péché originel dans cette constitution part...
Je ne vous ai pas.
Oui, professeur, on vous capte un peu difficilement. Alors, je disais que vous avez suivi les députés Okundji ainsi que plusieurs autres qu'on a suivis tout à l'heure, qui pensent que le péché originel dans cette constitutionnelle partirait de la révision constitutionnelle qui a fait que nous ayons tous les problèmes aujourd'hui. Est-ce que vous partagez ce point de vue, professeur Bob Kabambad? Voilà, décidément... On a perdu le professeur Bob Kabamba, la réalisation va tenter de le retrouver. Professeur Ambroise Kamukuni, je vous retourne la question. Est-ce que vous pensez que la révision constitutionnelle qui a fait basculer les tours à la présidentielle de deux tours à un tour serait le péché originel, le mal par lequel le scandale est arrivé?
Ben, je crois que lorsque vous m'avez retiré la parole dernièrement, j'étais en train d'en parler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amis qui pensent que le tout s'est limité à ce niveau-là, la révision constitutionnelle. Et j'avais eu à le dire, c'est qu'une révision constitutionnelle n'est pas nécessairement mauvaise. Une révision constitutionnelle peut servir à adapter le texte à l'évolution de la réalité sur terrain. Mais il y a beaucoup d'aspects qui ne se limitent pas à ce niveau-là. Ça, c'est sur la mise en place, au fait, d'une institution, simplement, le président de la République. Ce qu'on craignait lors de la révision constitutionnelle, c'est que le président ne puisse sortir comme un président minoritaire. C'est-à-dire qu'il soit vraiment en bas du pourcentage nécessaire pour regrouper le plus grand nombre autour de lui. Mais j'ai l'impression que l'élection qui a eu lieu le 28 novembre 2011, bien entendu, malgré les protestations des uns et des autres par rapport à l'organisation matérielle de ces scrutins, a démontré que les résultats sont allés au-delà des enjeux, au-delà des attentes. Ce qui n'a pas effectivement, pour moi, je ne considère pas que c'est là le péché original. Le professeur Kabamba, si j'ai bien je l'ai bien suivi, il a stigmatisé. Ce qu'il dit est vrai, que le processus d'application des textes à travers le monde entier, c'est un processus très long, qui demande effectivement non seulement la volonté politique, mais beaucoup de moyens aussi. Lorsqu'on parle des tribunaux, des cours, des nouvelles cours qui devaient entrer, remplacer la Cour suprême de justice, oh, bien entendu, qui traînent à s'installer, il faut penser aussi à tous ces moyens. Parce que quand vous passez à la Gombe, quand vous passez en ville, derrière le ministère de la Justice, vous voyez qu'on est en train de construire ces cours. C'est un problème de moyens. Et ces moyens, effectivement, diminuent les aspects positifs que nous avions espéré bénéficier de ce texte.
Professeur, je vous en prie, professeur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Pierre Shindano Koko de Bukavu au sud Kivu, je crois que le bilan par rapport à la constitution de 2006 est catégoriquement négatif, car certains articles de cette dernière avaient été révisés à la veille même des élections pour favoriser la majorité au pouvoir au détriment de l'opposition.
Professeur, la majorité n'a-t-il pas finalement tiré son épingle du jeu de cette révision constitutionnelle?
Ce que l'électeur, votre auditeur est en train de dire, n'est pas totalement faux. Ce que les amis contestent, ce n'est pas exactement faux aussi. Mais il faut retenir ceci. Il faut retenir ceci, cher ami, à travers le monde entier. Les gens qui sont au pouvoir, leur rôle, c'est de faire en sorte que, grâce à la Constitution, grâce au droit, ils parviennent à non seulement à conquérir le pouvoir, mais à le garder le plus longtemps possible. C'est ça que tout le monde doit retenir. Les gens ne peuvent pas au pouvoir et vous préparer le lit pour l'alternance. Ça ne se fait pas comme ça. Ceux qui sont au pouvoir, lorsque, prenons les États-Unis d'Amérique, lorsque il y a un gouvernement, un président démocrate ou un président républicain, qu'est-ce qu'il fait dans la mise en place de certaines institutions, comme du côté des nominations des juges? On prend ceux qui vous sont favorables pour faire en sorte que vous puissiez, parce que vous avez conquis le pouvoir, le garder le plus longtemps possible. Merci. Ce qu'il y a de l'autre côté, c'est que ceux qui sont dans l'opposition doivent justement continuer à se battre pour que les mécanismes que les gens au pouvoir tentent de mettre en place pour pouvoir conserver le plus longtemps possible le pouvoir, merci, ne puissent pas réussir. C'est ça le problème. C'est pas un jeu de faire des cadeaux.
Voilà, ce n'est pas un jeu où on fait des cadeaux. Professeur Bob Kabamba, je reviens à vous. Est-ce que vous nous suivez?
Oui, je vous suis. Très bien, merci.
Nous allons prendre, professeur, si vous le permettez, cette réaction qui nous vient de Kananga au Kasaï occidental et on vous retrouve après.
Eloi Kisungu, Kananga au Kasaï occidental. La constitution de la République démocratique du Congo a été appliquée à plusieurs vitesses. À certaines dispositions l'ont été faites sur base des intérêts particuliers. Si on regarde très bien, le législateur, lorsqu'il a déjà promulgué la loi, elle entre directement en vigueur. C'est pour cela que nous voyons que le bilan de cet an d'existence de notre constitution est mitigé.
Professeur, dans le commentaire qu'Eloi Kanangataime Chisungu nous a envoyé, il ajoute « Nous savons que certaines dispositions ne sont pas d'application pour des raisons financières. Le législateur devrait tenir compte de tous ces paramètres avant la promulgation. »
Merci pour la question. Donc, il faut bien préciser ceci. Hein. Quand on parle d'un texte constitutionnel qui rentre en vigueur, au fait, il s'agit des principes. Il s'agit des dispositions générales qui résistent à un cadre. Mais pour la mise en œuvre de ce cadre, il faut des dispositions particulières. Et ces dispositions particulières doivent être doivent être rédigées et adoptées par le Parlement et promulguées par le chef de l'État et publiées au journal officiel. Donc, lorsque l'on fait le texte constitutionnel, il faut la mise en œuvre. La mise en œuvre, ce sont des textes de loi ou bien des ordonnances, etc. Et alors, quand on parle de la mise en œuvre, c'est là où il y a confusion en disant que le texte constitutionnel est en œuvre. Mais la mise en œuvre de ces dispositions qui sont prévues dans la Constitution, ce sont les textes des lois, ce sont les parlementaires, donc les honorables Kamukuni, comme il l'a dit tout à l'heure, et comme l'autre honorable qui l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de manière très claire, c'est le Parlement qui doit impulser la mise en œuvre des principes qui ont été édités par la Constitution. Alors le Parlement, quand il a des difficultés, pour pouvoir adopter l'un ou l'autre texte et la mise en œuvre de ce texte-là, dépend aussi de toute une série de paramètres. Et parmi ces paramètres-là, il y a bien sûr le contexte politique, il y a les agendas politiques des uns et des autres, mais il y a aussi les moyens financiers et humains. Pour parler uniquement, par exemple, lorsque l'on dit que la Constitution a mis en place le cadre pour 3 hautes cours de justice, vous devez savoir que la mise en œuvre de cette disposition nécessite un minimum 4 lois qui doivent être adoptées par le Parlement. Alors, et jusqu'à présent, le Parlement n'a pas encore adopté toutes ces lois.
Professeur.
Et de plus, quand on dit 4 lois adoptées, il faut mettre en œuvre ces différentes lois. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens, des magistrats, qui soient à la Cour de cassation, qui soient à la Cour constitutionnelle, qui soient au Conseil d'État, et qu'ils soient formés pour. Or, est-ce qu'actuellement, il y a suffisamment de ressources humaines pour pouvoir mettre en œuvre ces différentes dispositions? Je ne le pense pas.
Professeur.
Par ailleurs aussi, lorsque l'on aborde la question de la Cour constitutionnelle, vous devez vous imaginer de manière très claire que cette Cour constitutionnelle a beaucoup, beaucoup de pouvoir que lui confère la Constitution. Politiquement, l'opportunité politique de mettre en place dans l'état actuel une Cour constitutionnelle, est-ce que c'est justifié?
Professeur.
Je pense que du côté de la majorité, on n'a pas nécessairement envie d'avoir une Cour constitutionnelle avec autant de pouvoir, avec autant de possibilités qu'ils ont mis en place dans le contexte actuel, ce qui fait que la mise en œuvre de certaines dispositions prenne du temps et dépend, comme je l'ai expliqué, de tous ces paramètres, malheureusement.
Professeur, alors je vous demanderai une très brève réponse. Vous dites que le bilan a adressé, c'est que c'est un processus long et difficile. Mais de votre point de vue d'analyste, professeur, avez-vous senti suffisamment de volonté politique, qu'on y avait mis les moyens qu'il fallait pour que l'application de cette constitution aille un peu plus vite? Brièvement, je vous en prie.
C'est là où le bas blesse, c'est qu'il y a une absence claire de volonté politique pour y arriver. Je prendrai le cas de la CENI, pour ne pas prendre le cas de la justice, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans le cas de la CENI, vous savez très bien qu'il a fallu attendre très longtemps pour avoir une commission électorale nationale indépendante. La mise en place de cette institution a pris beaucoup de temps, parce que tout simplement, il n'y a pas eu de manière très claire une volonté politique claire affirmée pour arriver à avoir une institution qui fonctionne de manière indépendante.
Merci. Honorable Emery Okundji, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Butembo, Nord Kivu.
Kiota Blaise de Butembo, province du Nord Kivu. Personnellement, je juge de négatif le bilan des 7 ans d'existence de la Constitution du 18 février 2006 en République démocratique du Congo, car elle est non seulement appliquée, voire révisée aux lunettes et en faveur des intérêts des acteurs politiques.
Voilà, là il généralise, hein, la Constitution appliquée, voire révisée aux lunettes et en faveur des intérêts des acteurs politiques, majorité opposition compris. Il y a certaines questions sur lesquelles même l'opposition a fermé les yeux, et le professeur Kamukuni a également indexé l'opposition.
Merci Alain Rung. Il a raison, c'est qu'il vient de dire que le bilan est négatif, et je l'ai dit. Moi, j'éviterais de faire une interprétation ou une analyse politique ou politicienne de la Constitution. J'ai choisi l'approche pratique. C'est-à-dire, nous prenons une disposition constitutionnelle depuis que la Constitution a été adoptée au référendum jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que cette disposition constitutionnelle est respectée? Voilà la question que moi je, la méthode que moi j'ai choisie. Allez, Rung, lorsque nous prenons par exemple la loi sur la Cour constitutionnelle, une loi qui avait été adoptée dans les deux chambres du Parlement, envoyée au président de la République pour promulgation. Lorsque nous revenons à la disposition de l'article 140, qui stipule que le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours de sa transmission, la faute est à qui? La faute est au Parlement? Je dis non. Les libertés syndicales, par exemple, qui est reconnue et garantie par la Constitution. Aujourd'hui, vous trouverez des syndicalistes à la SONAS, à l'ONATRA, qui sont licenciés pour avoir exercé leurs droits syndicaux. C'est de cela qu'il s'agit. Lorsque vous prenez l'article 39 de la Constitution, le droit de grève qui est reconnu, les fonctionnaires qui osent les faire aujourd'hui sont abusivement, arbitrairement licenciés. Les manifestations publiques, je l'ai dit. Et donc, c'est un problème de volonté politique et un problème d'homme. Mais ici, j'insiste, c'est la Constitution elle-même. Et d'ailleurs, lorsque vous allez à l'article 74, dans son alinéa, deuxième alinéa, premier tiré, vous remarquerez que le président de la République prête serment qu'il jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Et aujourd'hui, nous sommes devant des violations intentionnelles et tempestives de la Constitution. Et donc, c'est au président de la République qui a ce pouvoir de veiller au respect de la Constitution, de prendre des mesures qui s'imposent.
Mais vous avez suivi.
Il y a des dispositions qui ne demandent pas des lois particulières de la part du Parlement.
Mais vous avez suivi le professeur Kamukuni, le professeur Bob Kabamba l'a également effleuré. La mise en œuvre n'est toujours pas facile, la réalité par rapport au texte.
C'est un problème de volonté politique. Je n'accepterai pas ceux qui veulent se réfugier en disant que derrière les difficultés ou quoi de la mise en œuvre, il y a des choses que l'on peut, si la volonté politique est là, en tout cas faire correctement. Et puisque nous parlons de cela, qui donne la leçon, doit l'exemple, je ne cesserai de le dire, le président français, lorsqu'il battait sa campagne, il a dit: moi, François Hollande, si je suis élu, je formerai un gouvernement où les hommes et les femmes seront paritaires. Eh bien, une fois élu, il a formé un gouvernement où les hommes et les femmes sont représentés de manière paritaire. Mais c'est cela la volonté politique. Et chez nous, dans notre pays, moi je pense que la volonté politique fait défaut. Il y a des choses qui ne demandent pas des lois particulières. Et parce que mon collègue Kamukuni a rejeté même la responsabilité à l'opposition. Mais non, l'opposition, nous avons nos droits et nos devoirs. Mais lorsque nous voulons les exercer, nous voyons de quelle manière on déploie la force publique, la puissance publique pour nous mater, pour nous empêcher d'exercer nos droits les plus fondamentaux. Hein, il n'y a pas longtemps, le 16 février, nous voulions, en ce qui nous concerne les forces acquises au changement opposition, nous voulions en tout cas faire une marche pacifique pour dire non à la balkanisation, pour dire oui au dialogue, pour que nous puissions mettre fin aux maux qui rongent la République. Mais vous aviez vu de quelle manière on a déployé un armada de policiers. Merci. Et des armes pour nous empêcher de manifester pacifiquement. Et donc c'est un problème de volonté politique et un problème d'hommes. Il faut que nous ayons cette volonté politique et les hommes qui auront cette volonté d'appliquer scrupuleusement la Constitution de la République et les lois de la République.
Professeur Ambroise Kamukuni, vous incombiez également tout à l'heure la faute aux citoyens, mais n'y a-t-il pas un problème du fait que cette Constitution n'a pas été suffisamment vulgarisée, que le citoyen ne la connaît presque pas?
Vous avez raison, cher ami. Je ne cesse de le répéter, et ça, c'est un problème. C'est un problème très, très, très sérieux au niveau de notre Constitution. Je l'ai toujours dit, je continue à le soutenir. La Constitution est écrite en français. dans un français techniquement très fort. Et lorsqu'on on regarde la population de notre pays, on dit toujours qu'elle est composée de 80% d'analphabètes. Mais dans les 20% de ceux qui sont censés connaître, il y a 90% d'analphabètes constitutionnels. C'est-à-dire que cette constitution, son écriture est en langue qui dépasse même ceux qui gèrent les différents pouvoirs que nous avons. Il y a un problème, que ce soit au Parlement, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les grands, dans les beaucoup de services. Parce que mon collègue est en train de se plaindre. Pour mieux faire le bilan de la constitution actuelle, il faut comparer l'exécution de la constitution actuelle par rapport à de nombreuses constitutions que nous avons eues depuis 60.
Merci, professeur Kamukuni. Je signale en même temps qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Professeur Bob Kabamba, il faut presque déjà conclure. L'honorable Emery Okundji a cité des faits de la constitution qui ne sont pas respectés. Professeur, sur le plan pratique, finalement, ne faudrait-il pas s'inquiéter de l'application de cette constitution en guise de conclusion?
Merci. Donc la question, elle est aussi, c'est que de là, de voir aussi de l'honorable, parce qu'il est honorable, donc il peut faire aussi des propositions de loi. Quand il parle des droits de grève, il doit bien se rendre bien compte que le droit de grève est inscrit dans la Constitution, mais il faut qu'il y ait une loi qui spécifie la mise en œuvre et l'application de ce droit qui est inscrit donc dans la Constitution. Donc de manière très claire, il est important que chaque institution, chaque animateur puisse prendre ses dispositions et ses responsabilités pour arriver à assumer que cette constitution soit mise en œuvre. Quand je dis chaque animateur, il y va de la présidence de la République, du gouvernement, du Parlement, de la province et aussi de toutes les institutions politiques qui sont mises en place dans le cadre de cette constitution.
Alors, professeur, peut-être juste une dernière question. Faut-il envisager une autre révision de cette constitution ou la laisser telle qu'elle malgré certains défauts comme pensent certains constitutionnalistes?
Vous savez que lorsque l'on parle d'une constitution, de révision constitutionnelle, la constitution elle est le reflet d'un moment, d'un contexte. Si le contexte change, les animateurs politiques veulent aussi changer le contexte en fonction de leurs ambitions, en fonction de leurs intérêts. Et de clair, si l'opportunité par rapport aux animateurs politiques juge que cette constitution n'est plus adaptée par rapport à leurs intérêts et au contexte, ils peuvent la changer parce que le texte n'est pas rigide et il y a une procédure qui doit être respectée. Et l'opposition doit se battre pour que le système constitutionnel ne doit pas être changé, elle doit se battre pour qu'il n'y ait pas changement de la constitution avec les armes qui sont dans lesquelles la constitution, par exemple, empêcher qu'il puisse y avoir 3/5 de voix au niveau du Parlement ou au niveau du Congrès.
Honorable Emery Okundji, il faut déjà conclure. Qu'est-ce que les auditeurs qui vous suivent peuvent retenir d'après vous?
Les auditeurs doivent retenir une chose. Nous avons une constitution, une bonne constitution parmi les pays africains. La République démocratique du Congo a une constitution moderne. Et le vrai problème réside dans le respect de cette constitution et de loi de la République. Je ne les cesserai de le dire assez. Tout dépend de la volonté politique et des hommes et des femmes que nous avons qui peuvent en tout cas mettre tout en œuvre pour que cette loi fondamentale soit scrupuleusement respectée. Et ici, le premier des citoyens qui a ce devoir-là, c'est le président de la République qui doit veiller au respect de la Constitution, car il a même prêté serment d'observer et de faire respecter Merci. La Constitution de la République.
Professeur Kamukuni, juste un mot pour conclure.
Pour conclure, la Constitution actuelle, c'est une vraie avancée par rapport à l'histoire constitutionnelle de notre pays, mais il faut que tout le monde s'y mette. J'ai dit tout le monde, c'est-à-dire les animateurs des institutions en place, ceux qui sont de la majorité comme de l'opposition, ainsi que les citoyens, pour Merci. Que finalement cette constitution soit respectée. Mais il faut reconnaître aussi que la constitution a beaucoup de dispositions qui ne sont pas comprises.
Merci.
Et il faudra la vulgariser suffisamment pour que tout le monde la comprenne de la même façon.
Merci, professeur Ambroise Kamukuni, député national de la majorité présidentielle, professeur de droit constitutionnel congolais à l'université de Kinshasa. Merci à l'honorable Emery Okundji, député national de l'opposition et cadre du parti politique au FONUS. Merci au professeur Bob Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale, qui a contribué à l'élaboration de la constitution du 18 février 2006. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de votre attention. Bonne soirée chez vous.